Jean Gagliardi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre, Feu et Vent, un livre autour des rêves. Voilà.
C'est ça, sous-titré L'émergence du soi à travers des rêves. Et c'est très directement en direction de la vision que Jung avait des rêves. Puisque Feu et Vent, ça vient d'une citation de Jung, où il écrivait à une amie, 2 ans avant sa mort, il disait « Je vois ce qui va arriver de moi, ce qui va m'arriver à titre posthume. Tout ce qui a été feu et vent dans ma vie sera mis dans l'alcool. » Échanger en préparation morte. Alors, je crois que c'est un peu ce qui est arrivé. Hein. Et voilà, sa vision a été enterrée dans le papier, tout ce genre de choses, un peu oubliées. Et mon travail, entre autres, vise un peu à retrouver le feu et le vent qu'il y avait dans son travail et qu'il y a dans les rêves.
Est-ce que vous définissez comme un continuateur un peu de l'œuvre de Jung, au niveau du travail sur les rêves que vous faites ?
Continuateur de l'œuvre de Jung, ce serait très prétentieux, je crois, tout simplement. Mais je m'inscris certainement dans sa lignée, dans l'esprit. Voilà, certainement. Je suis un chercheur. J'ai été profondément inspiré par Jung, pas seulement par lui. Et je suis un amoureux des rêves. Si je dois me présenter, j'aime bien me présenter comme un onirologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les rêves. Et je considère que les rêves, c'est un art à part entière, c'est-à-dire que c'est pas simplement une branche de la psychologie, par exemple. C'est vraiment une voie, une discipline à part entière qui recoupe psychologie, mais spiritualité, méditation, connaissance des traditions anciennes, mythologie, culture à différents étages.
C'est toute une vie.
C'est toute une vie, c'est toute une discipline.
Vous avez commencé, on peut le dire, par des blogs. Vous pouvez peut-être nous les citer, vous en avez 2 ?
Oui, j'ai 2 blogs. Alors en effet, j'ai commencé par créer en 2014 un blog qui s'appelle La Voix du Rêve et où j'ai publié 130 articles sur les rêves, sur la méditation, sur la recherche intérieure. Je n'ai pas d'un côté de prétention à créer quelque chose de nouveau, mais je n'imite personne non plus. Je fais mon propre chemin. Donc publier ce blog, pour moi, ça a été l'occasion d'exprimer ma couleur et grâce aux retours que j'en ai eus et aux questions, d'approfondir là, tranquillement la direction de travail qui est en train d'émerger chez moi à ce moment-là.
Et vous avez également un autre site, mais qui est plus poétique, je pense.
Oui, c'est ça. C'est un autre moment, un peu plus tard, en fait. Comme de toute façon, je suis très investi dans l'écriture, à côté des rêves. L'exigence s'est faite à l'intérieur de créer un blog poétique où je publie mes propres textes, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'en ai fait un herbier où je mets tous les textes qui me touchent, poétiques ou philosophiques. Donc c'est devenu ma petite bibliothèque ambulante en même temps, parce que c'est sur Internet, donc je peux y accéder à tout moment. Et puis celui-là, je l'ai appelé « La joie d'être un âne ». Un peu un clin d'œil à cette façon un peu de se présenter, beaucoup dans la spiritualité, avec la joie d'être. Ah, c'est tellement beau, puis on est comme en extase. Puis j'ai eu envie de mettre un peu d'humour là-dedans et de rajouter juste « La joie d'être un âne », parce que c'est doux les ânes, c'est sympa. Et surtout à l'époque où on a des téléphones intelligents et tellement de trucs, l'intelligence dite artificielle et tout ça. Je pense que les ânes ont un avantage sur nous. Et j'ai eu envie de leur rendre un peu ça.
Alors, cette publication, on y revient, le livre donc Feu et Vent. On peut dire que c'est une forme de reconnaissance, finalement, de votre parcours d'ouverture au monde. J'entends par là la création des blogs, voilà, le fait de vouloir partager avec l'univers, finalement, ce qui vous habitait depuis longtemps. Un signe de plus sur votre chemin, donc, cette reconnaissance ?
Oui, certainement l'incarnation de quelque chose. En fait, ce livre a coïncidé avec un moment particulier dans ma vie, qui est le moment où j'ai quitté le Canada, où j'avais vécu 25 ans. Okay. Et où je suis revenu en France. Et je me suis rendu compte que ce livre, eh ben, il fallait qu'il se fasse en France et pas au Québec. Et pour moi, il incarne quelque chose d'un accueil très chaleureux que j'ai reçu, en particulier d'Agnès Vincent, mon éditrice Réelle Édition. C'est ça qui est aussi la fondatrice de l'école des rêves et profondeurs de Montpellier. Et donc, j'ai rencontré Agnès, j'ai rencontré Pierre Trigano, son conjoint. On a parlé, on a échangé autour des rêves. Et ce livre cristallise pour moi, en effet, peut-être un peu le passage une autre étape. Publier comme ça gratuitement sur Internet, c'est sympa, mais le jour où ça prend forme d'un livre, ça vous communique quelque chose, les gens vous prennent un petit peu plus au sérieux.
D'ailleurs, alors, par rapport donc à votre expérience du rêve, vous avez dû donc depuis toutes ces années accumuler une petite bibliothèque des rêves quand même, les vôtres et ceux des gens que vous pouvez côtoyer, accompagner pour l'interprétation ou autre. Assez conséquente donc pour voir peut-être émerger un futur possible de l'humanité. Est-ce que vous arrivez à percevoir un changement qui serait à l'œuvre actuellement ou un futur possible ?
Oh, c'est une vaste question, c'est une superbe question. Bon, déjà, les rêves m'intéressent parce que c'est le lieu d'une guidance. Après, qu'est-ce qui guide ? C'est très difficile à définir. On va parler du soi, on pourrait envisager les anges, les maîtres intérieurs, quel que soit le vocabulaire, je ne sais pas. Mais il y a une source de sagesse qui guide. Et cette guidance, elle arrive aussi bien à un niveau personnel, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, nos recherches, qu'à un niveau collectif. Et pour moi, c'est clair que la réémergence moderne de l'intérêt pour les rêves signe, avec bien autre chose, c'est pas le seul élément, un changement d'époque spirituelle, qui se caractérise entre autres par le fait que chacun est appelé à devenir son propre maître, ou à trouver son propre maître spirituel à l'intérieur. Et que l'aventure qui est proposée vraiment aujourd'hui, je crois, sur le plan spirituel, c'est chacun d'oser faire confiance à ce qui guide à l'intérieur. Et au niveau collectif, ça dessine aussi un changement d'axe assez profond, du passage d'une organisation qui était très pyramidale, avec des gens qui étaient en haut et qui savaient, et des gens en bas qui recueillaient la bonne parole, à quelque chose dans lequel la forme du cercle s'impose beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes au même niveau, au même endroit, quelle que soit notre expérience, notre cheminement et d'où on vient. L'intérêt du cercle, c'est que si au centre du cercle, il y a le rêve ou la vérité, ce qu'on peut chercher, il devient acceptable qu'il y ait plusieurs angles de vue qui se complètent les uns les autres, et qu'on peut venir de différentes traditions, de différents points de vue, et qu'on forme quand même une unité. Donc par exemple, on forme une unité, je sais pas moi, avec les soufis, avec les bouddhistes, avec certaines branches de l'alchimie, des chrétiens, des taoïstes, des athées, des agnostiques. C'est à chaque fois simplement un angle pour approcher d'un certain mystère qui trouve en particulier son expression dans le rêve. Il faut dire que les rêves de portée collective des dernières années sont quand même des rêves assez inquiétants, parce que pour beaucoup, on constate des rêves qui parlent d'un effondrement probable, de cataclysme, de tsunami, qui seraient probablement des images de montée de l'inconscient très très violente. Mais on voit aussi des rêves où il est question de la construction d'un temple. Et de la construction d'un temple auquel collaborent des gens qui viennent de tous les pays. Et ça, c'est une des choses que m'a communiqué le travail des rêves. Une conviction profonde qu'on est dans une ère où il y a une transformation. Pour moi, peut-être s'incarne le mieux avec ce qu'on appelle le mythe du peuple arc-en-ciel, qui est un ancien mythe amérindien. Les Amérindiens disent que quand ils ont vu les Blancs arriver, les anciens se sont réunis puis qu'ils ont enterré la sagesse pour la protéger. Et puis que 500 ans après, ils ont déterré cette sagesse puis ils l'ont rendue disponible au moment où la Terre en a besoin. Et que ce qu'ils s'attendaient à voir, c'était la prophétie, ils allaient voir des gens arriver de tous les horizons pour créer un arc-en-ciel spirituel, de toutes les couleurs, de toutes les sensibilités. Et bien, je crois que c'est ce qu'on est en train de voir et je crois que c'est ce qu'on voit émerger dans les rêves.
Moins de gourous, au sens évidemment noble du terme, et plus de, comme vous disiez tout à l'heure, trouver son propre maître intérieur.
Exactement. Moins de gourous, alors au sens noble, ça veut dire en fait moins de personnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire que la question est moins de dire « la vérité est ici, elle n'est pas là-bas ». On va continuer à rencontrer des enseignants, on va continuer à avoir des gens, mais je crois que la conscience devient de plus en plus claire que la vérité a de multiples facettes et que personne ne détient la vérité contre la vérité de l'autre.
Et peut-être aussi plus de subtilité pour capter peut-être, les rêves en font partie, mais je veux dire, cette petite voix qui peut nous guider intérieurement.
Oui, je pense qu'en effet, ça va avec le fait aussi qu'il y a toute une éducation généralisée qui a relevé le niveau, je dirais, mental, intellectuel, le niveau de conscience, a amélioré les facultés de concentration. On a aujourd'hui une faculté de concentration bien supérieure à celle que des gens d'il y a 1000 ans, qui n'étaient pas nécessairement éduqués, avaient spontanément, c'est beaucoup plus répandu. Et du coup, ça, en effet, ça aiguise les capacités de sensibilité, mais aussi le questionnement. On est aussi à une époque où tout le monde peut, s'il a la moindre curiosité, rentrer dans une librairie, lire des philosophes, se poser toutes les questions existentielles les plus profondes. Donc ça permet à tout le monde de devenir un chercheur. Et une des immenses vertus de l'Internet, c'est de mettre en commun ses recherches. Et tout d'un coup, des gens qui étaient complètement isolés il y a encore 20 ans se rendent compte qu'il y a d'autres gens qui partagent le même intérêt qu'eux ailleurs dans le monde. Donc je pense qu'il y a un phénomène très important de passage à un autre niveau de complexité, au fond, dans cette interaction. Il y a non seulement plus de subtilité, mais il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de chercheurs spirituels qui parlent entre eux de tous les côtés.
Mais alors comment savoir, là c'est une question très pratique, comment savoir qu'on est relié et en accord avec le monde où le message des rêves est de la profondeur. Autrement dit, quand on est relié à la source, bon, le soi, la source, le guide intérieur, qu'est-ce que cela change au quotidien? Est-ce que tout devient signe ou synchronicité, par exemple?
Reprendre la question par le début. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est relié? En fait, on pourrait repartir de qu'est-ce qui nous permet de savoir, par exemple, qu'on a entendu un rêve, qu'on a compris un rêve. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça passe toujours par un déclic. Ça passe toujours par un mouvement intérieur très fort. C'est-à-dire que si on travaille un rêve et qu'on touche à l'interprétation juste, il se passe quelque chose à l'intérieur qui est comme une évidence, un « ah ah », et qui crée un élargissement de conscience. C'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose qui n'était pas vu jusque-là devient évident. Et on en est presque à se dire « mais tiens, comment j'ai fait pour passer à côté de ça, quoi ?» Et en même temps, c'est justement la fonction du rêve que de nous amener quelque chose.
Une prise de conscience ?
Oui, c'est une prise de conscience. Quelque chose qui n'était pas conscient devient conscient. Bien. Quand on est en connexion avec ça, on est au fond, je crois, très généralement, beaucoup à l'écoute en permanence de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Et finalement, déjà, une des premières caractéristiques, c'est finalement qu'on sait beaucoup moins de choses que la plupart des gens. On a moins de certitudes. On a beaucoup moins de certitudes. Que les choses devraient être comme ci ou comme ça. Il faudrait absolument que les choses se passent comme j'ai décidé, etc. Donc déjà, on va dans la vie, je crois, avec une certaine ouverture et attentif à simplement rester en accord avec soi-même. Et l'image que j'aurais pour ça, c'est que cet accord, encore, on le sent. C'est pas un accord intellectuel, c'est un peu comme un cavalier sur son cheval. On va sentir qu'on est sur notre monture, on va sentir qu'à certains moments, on est décentré, puis on est désarçonné. Parce qu'il se passe quelque chose, par exemple, qui nous crée une réaction émotionnelle, puis là, tout d'un coup, voilà, on est rentré en colère, puis on a plein de certitudes sur la façon dont les choses devraient se passer. Et puis tout d'un coup, il y a un petit quelque chose qui nous vient à l'intérieur, ou c'est un rêve la nuit suivante, qui nous fait nous dire « hop là, je suis descendu de mon cheval, là. Là, je me suis perdu, là, je me suis désarçonné. » Alors, à partir de là, en effet, c'est pas que tout devient signe et synchronicité, ce serait un peu beaucoup tout. Et ce serait même dangereux mentalement que de prendre tout. Mais en effet, il y a quelque chose de très drôle qui se passe. C'est que si on observe, si on est à l'écoute, on a une pensée qui nous traverse la tête et au même moment on a une réponse qui arrive. Il n'y a pas longtemps, je marche dans la rue et j'étais un petit peu triste. Je repensais à Montréal où j'ai longtemps vécu et je me demandais quand est-ce que je retournerai à Montréal ou plus exactement si je retournerai à Montréal. Et juste à ce moment-là, je vois passer un autobus. Je suis dans Carcassonne et le panneau sur l'autobus me parle de la clinique Montréal et tout le monde y est bienvenu. Évidemment, ça saisit. Ça prend pas, comme on dit au Québec, la tête à Papineau pour comprendre la synchronicité. C'est vraiment une réponse directe. C'est « tu reviens quand tu veux ». Alors, ça va avec simplement une qualité de présence et une qualité d'écoute. N'importe qui est présent dans sa vie et à l'écoute de ce qui l'entoure va sans arrêt rencontrer des choses qui le guident.
Savoir aussi peut-être avec la justesse, la pensée juste ou l'acte juste.
Alors la pensée juste, l'acte juste, c'est quelque chose encore une fois de très difficile à définir, mais on peut y mettre quelques critères. On est sûr qu'on n'est pas dans une pensée juste si on commence à juger quelqu'un. Voilà. En fait, dès qu'on commence à refuser un aspect du réel, on est sûr qu'on est sorti de la justesse. C'est ce genre de choses sur laquelle on peut sans arrêt tester au fond, parce que c'est normal hein, en même temps de juger, c'est inévitable. C'est inévitable de rentrer dans des refus de certains aspects de la réalité, mais on peut y mettre de la conscience. Au lieu d'être convaincu qu'en effet, les autres n'ont pas le droit de penser ce qu'ils pensent et qu'ils devraient penser comme on pense, on peut se rendre compte qu'on est aussi intolérant que les autres.
Oui.
Et comme on dit chez moi, prendre notre trou et dire « bon ben finalement, chacun pense ce qu'il veut ». C'est correct, j'ai ma subjectivité, ils ont leur subjectivité, et c'est toutes nos subjectivités ensemble qui font un monde.
Finalement, notre attitude face à la vie, parce qu'on est, influence beaucoup notre relation aux rêves et à l'intégration de leurs messages. Vous dites qu'en intellectualisant le rêve, finalement, on tue le symbole. Ainsi, peut-être d'une attitude, pour le coup, trop rigide ou figée au quotidien.
Oui, je crois vraiment que les rêves visent toujours, au fond, à réintroduire du mouvement et de la fluidité dans notre façon d'être en relation avec le monde, en relation avec nous-mêmes et en relation avec le mystère d'être. Donc, en fait, dès qu'on commence à se figer dans quelque chose, le mouvement de la vie nous emmène vers un moment où cette forme figée va mourir.
D'accord.
C'est pas facile. Mais justement, les rêves nous accompagnent là-dedans. C'est-à-dire, les rêves sont capables de nous dire, ben regarde, t'es monté à un certain sommet, maintenant il va falloir redescendre. Tu as acquis telle connaissance, ben maintenant il va falloir accepter de la perdre pour passer à autre chose. Il va falloir descendre, 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 descendre. Le mouvement des rêves invite très généralement à descendre beaucoup plus qu'à monter.
Souvent, la quête spirituelle, comme ça, si on parle des sommets...
Alors, ça, c'est vraiment justement une image qu'on a de la quête spirituelle qui nous vient d'une certaine forme d'idéalisme spirituel qui a marqué en particulier l'Occident. Un idéalisme dans lequel on met ce qui est bon en haut et ce qui est mauvais en bas. Donc, ce qui était mauvais, hein, c'était le corps, c'était la terre, c'était le féminin, c'était la vie sur terre, c'était tout ça. Et puis, on espérait qu'en haut, il y avait... Pas seulement on espérait, mais on projetait, on cherchait en haut une élévation au-dessus de tout ça, au-delà de toutes ces souffrances, etc. Jung signale qu'en fait, ça a fait énormément de mal, énormément de tort, parce que précisément, ça a amené à nier les instincts, nier le corps, la féminité, tout ce genre de choses. Et Jung a parlé du nécessaire renversement, quelque part, vers les profondeurs, vers le féminin, vers les rêves, tout ça est en bas. Mais pas seulement Jung. Il y a un des textes que je préfère de Pema Chodron, qui est une moniale bouddhiste. Et elle dit d'une façon magnifique, elle dit, quand on se représente la quête spirituelle comme étant l'ascension d'une montagne, plus on monte, plus on est seul. Et on laisse derrière nous, n'est-ce pas, tous ces autres pauvres êtres souffrants qui sont dans l'ignorance et tout ça. Et finalement, quand on est en haut, on y est peut-être bien. On voit peut-être le panorama, mais on est absolument tout seul. Et éventuellement, même, il fait froid. Et elle dit, la quête de la bodhicitta, c'est-à-dire la conscience du cœur, va exactement dans le sens inverse. On descend, on descend, on descend. On saute à pieds joints dans nos troubles, dans notre confusion. On y va, on y va. Mais plus on descend, et plus on est accompagné de tous les autres. Donc on n'oublie pas notre frère schizophrène, notre sœur droguée. Au contraire... Ils sont tous invités au voyage et on descend tous ensemble vers un endroit où règne quelque chose qui est impérissable, qui est ce qu'elle appelle la conscience du cœur, qu'on pourrait appeler l'amour, et qui est ce qui éclaire vraiment la vie. Donc moi, je suis un adepte de cette descente dans les profondeurs et un adepte de cette descente vers le féminin, beaucoup plus que de cet idéalisme héroïque qui veut arriver en haut à tout prix et dominer la situation. Parce qu'en plus, même si on arrive un jour en haut, il ne faut pas oublier que tôt ou tard, il faut redescendre, justement.